die in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Live here my whole life. Never anything to do in this town. Live here my whole life. Probably learn to die in this town. Live here my whole life. Nothing to do, sit around at home. Sit around at home, stare at the walls. Stare at each other and wait till we die. Stare at each other, wait till we die. Probably come to die in this town. Live here my whole life. There's kerosene around. Something to do. There's kerosene around. She's something to do.
Bienvenue dans Pandé, le DJ sur Graphite 94.9 en direct tous les lundis de 21h à 22h. Rediffusé le samedi matin de 9 à 10. Et puis vous pouvez bien sûr nous écouter en podcast sur le site internet de la radio www.graphite.net. Bonsoir Ben.
Bonsoir Pierrick.
On est donc rentré directement dans le vif du sujet ce soir, Steve Albini, dont on a appris le décès à l'âge de 61 ans il y a quelques jours. On s'est dit, on va lui monter une émission hommage, puisque c'est quand même un musicien et un producteur. Enfin, il n'aimait pas le terme d'ailleurs, il disait toujours voilà, des disques enregistrés par Steve Albini, pas produits par Steve Albini. Enfin, qui a énormément marqué notre culture musicale.
Sachant qu'on avait déjà fait des émissions sur Steve Albini, sur toutes ses productions notamment. Donc voilà, c'est pas quelque chose de neuf pour nous. Enfin voilà, on saute pas sur l'occasion. C'est juste quelqu'un. C'est vrai qu'à chaque fois, voilà, à chaque fois qu'il produisait un album, à chaque fois qu'il sortait un album, voilà, on en parlait quand même très très régulièrement. Donc aujourd'hui, je sais pas si on va écouter plus qu'on va en discuter. Mais voilà. Alors, tu veux qu'on commence par quoi ?
Alors, on va déjà peut-être présenter le morceau qu'on a passé. C'est Kérosine, quand même son morceau de bravoure avec son groupe Big Black. Ouais. Parce que pour remettre un peu Steve Albini, c'est un gamin des classes moyennes, hein, j'ai plutôt l'impression d'après ce que j'ai lu, qui donc, se met à écouter du punk rock quand il est adolescent. Il découvre notamment les Ramones. Il va s'orienter vers des études de journalisme, il va écrire dans des fanzines musicaux et monter son groupe Big Black avec un premier maxi en solo, hein, c'est les Lungs. Où il joue de la guitare et puis il a une boîte à rythme. Et il va y avoir ensuite plusieurs maxis. On va arriver au premier album Atomizer, dont on a écouté Kérosine, là, ce morceau de bravoure où on décrit ce que ça fait d'être coincé dans une petite ville où on est né, où on va mourir. Et donc en fait, il n'y a rien d'autre à faire que de se mettre le feu ou de menacer de se mettre le feu.
Et donc Set Me on Fire, voilà, fous-moi le feu, littéralement. Et voilà, c'est un peu particulier, souvent ces paroles, Steve Albini, il aimait créer le malaise chez l'auditeur, c'est-à-dire qu'il va parler de sujets assez glauques, pas vraiment politiques, mais des sujets, il va parler de déviance, un peu des maux de la société, mais de façon un petit peu faits divers. Et voilà, il ne va pas mettre de morale dans ses chansons, c'est à l'auditeur de le faire, et souvent il aime créer justement ce malaise. Et c'est un truc qui va être assez propre au noise rock, finalement, qu'il crée avec Big Black, puisque tous les groupes après noise rock, voilà, ont repris un petit peu ce credo, notamment le groupe Unsane de New York. Je ne sais pas si tu vois, avec leur pochette, à chaque fois on croirait des scènes de meurtre. Donc voilà. Alors, tu veux qu'on écoute
avec
quoi ?
C'est humour un peu...
Ouais, l'humour grinçant.
L'humour très grinçant, très, très malaisant du personnage, qui aimait bien, qui avait un petit côté provocateur. Donc certains ont crié au génie quand il est apparu, d'autres disaient ouais, « c'est un connard ». Big Black va, juste peut-être pour terminer sur Big Black, hein, c'est deux albums, plusieurs maxi. C'est un groupe qu'il avait formé avec au départ Santiago Durango à la guitare et Dave Riley Jeff Pezzati à la basse, qui sera ensuite remplacé par Dave Riley. Et une boîte à rythme, donc il y a deux albums, Atomizer avec ce morceau de bravoure Kérosène.
Le deuxième c'est Songs About Fucking.
Ouais, c'est ça. Ensuite, le groupe va séparer. Apparemment, Steve Albini, ça commence à devenir trop établi, donc fidèle à son éthique punk qu'il a...
Ah.
Hop, petit souci.
Ça sera pour plus tard.
Fidèle à son éthique punk, il a ensuite remonté à un autre groupe.
Alors, en plus, avec un nom assez problématique.
Qui va durer 2 ans, qui est Rape Man, qui fait en fait référence à un personnage de manga japonais.
Ouais, mais je crois qu'il était un peu particulier, ce personnage de manga. Je crois que c'était un espèce de super-héros, mais pour défendre la veuve à l'orphelin, je crois qu'il violait en fait.
Oui, il vengeait les victimes en violant les bourreaux. Et il y a eu un sale album de Rape Man avec une chanson sur les petites culottes de Kim Gordon, la bassiste de Sonic Youth. Rape Man, donc l'album c'est Two Nuns and the Pack Mule, sorti en 88. Pareil, il y a des maxis à côté qu'on ne retrouve pas sur l'album. Là, il s'entoure de la section rythmique de Scratch Acid avec David Sims et Ray Washam. Et on va entendre l'extrait Steak and Black Onions qui ouvre l'unique album de Rakeman, le groupe de Steve Albini. We'll be right back.
Et on vient d'écouter un album qui a été produit par Steve Albini. C'était
extrait d'un album.
Extrait d'un album. Album oui, extrait d'un album produit par Steve Albini. C'est le groupe Jesus Lizard avec l'album Liar. Et c'est le troisième album du groupe. Il y avait Ed après. Il y avait Got et du coup celui-là c'est Liar et voilà un des meilleurs albums du groupe Jesus Lizard qui est produit par Steve Albini et juste avant on a écouté du coup Rape Man et on retrouve la section rythmique de Rape Man
le bassiste
dans Jesus Lizard donc voilà. Et voilà, c'est un petit peu le Jesus Lizard Big Black, c'est un petit peu ce qu'ont posé les bases du noise rock, parce qu'on se souvient surtout, enfin en tout cas dans la presse, on se souvient surtout de Steve Albini, producteur, mais ça a été aussi un musicien extrêmement influent et qui a littéralement inventé un genre, un sous-genre du punk qui est le noise rock, quoi. Donc après
et qui est devenu producteur. Alors justement, donc on a passé un morceau de Rape Man juste avant, et c'est après qu'il a commencé à produire, enregistrer, comme il disait, et avec ses premières productions, dont les Pixies, quand même, le surfeur Rosa des Pixies, avec toujours cette production, ce son très abrasif dans ses productions, un son massif qui met la batterie en avant. Généralement, il dit que voilà, il faut pas plus d'une semaine pour enregistrer un album, parce qu'au-delà, c'est juste qu'on veut se faire de la thune sur le dos du groupe. Quelqu'un qui a enregistré mais des centaines de groupes. Hein. D'ailleurs, il y a une pluie d'hommages qu'ont suivi sa mort de la part des groupes qui, comme tu disais, avaient tous quelque chose une anecdote sur Steve Albini.
Moi, je suis allé voir un petit peu sa page Discogs et il est crédité sur quasiment 2000 albums, enfin, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est considérable.
Heureusement qu'il ne mettait pas beaucoup de temps à les enregistrer.
Ouais, et après...
Ça lui permettait d'enregistrer beaucoup de groupes, et des groupes à la fois très connus. Hein. Ouais. Bon, on pense évidemment au In Utero de Nirvana, même s'il a été un peu retouché après par Geffen. Mais aussi des groupes obscurs. Ouais. Et souvent,
des groupes français, Sloy par exemple, ont été produits par Steve Albini.
Les Thugs.
Ouais.
Et souvent des groupes Dionysos. Et souvent des groupes qui faisaient... Pas souvent, d'ailleurs, des groupes qui faisaient payer suivant leurs moyens.
Oui, c'est ça. Et ils refusaient, par exemple, de toucher des royalties des ventes des albums. Ce qui fait qu'il s'est assis sur sans doute des millions de dollars quand il a refusé de toucher les royalties pour In Utero, par exemple, ou même pour PJ Harvey ou les Pixies, ou voilà, tous les albums à succès qu'il a pu enregistrer. Enfin, avec tout ce qu'il a enregistré, il aurait pu être largement multimillionnaire, mais il a gardé son éthique punk, et il a toujours refusé de se compromettre.
Peut-être pour ça qu'il est devenu champion de poker, pour pouvoir gagner de l'argent cette fois en gagnant des championnats de poker.
Et bon, après, voilà, ça a toujours été un grand défenseur de la musique indé. Il l'a même théorisé en livre. Et voilà, dans toutes les interviews qu'on peut lire de lui, voilà, il revient là-dessus. Et il est inutile pour un groupe, en fait, indé, d'aller signer chez une major, parce que dans 95% des cas, en fait, il ne vendra pas plus, parce qu'il n'arrivera pas à toucher un public plus large, et il va s'aliéner sa base. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui s'est passé justement pour Jesus Lizard. Voilà, le groupe, après avoir signé, avoir sorti 4 albums chez Touch & Go Records, va chez Capitol. Ils sortent 2 albums chez Capitol et en fait, c'est les plus mauvaises ventes qu'ils font. Donc voilà, ils voulaient toucher un autre public, mais finalement, ils n'ont pas réussi à toucher un autre public et la base s'est barrée, quoi. Donc voilà.
Alors avant d'écouter quelques autres productions de Steve Albini, on va on va reprendre son parcours aussi en tant que musicien et son troisième groupe, hein, qui devait sortir un album prochainement, qui doit sortir un album prochainement.
Il devait sortir, je crois, la semaine prochaine.
Il va aussi sortir, c'est Shellac, qu'il forme dans les années 90. Et on va entendre un single qui avait précédé l'album, qui est sorti uniquement en 45 tours. C'était aussi un grand défenseur de l'objet, enfin du son, enfin oui. De l'objet du son du vinyle. Et ce single, alors Shellac, donc on retrouve Steve Albini, Bob Weston à la basse et Todd Trainer à la batterie. Ce single, c'est Uranus, et on écoute la face B Wing Walker Shellac. On a enchaîné deux titres de Shellac. D'abord Wing Walker, donc extrait d'un 45 tours qui sont sortis juste avant leur album Live at Action Park qui sort en 94.
C'est ça, 94, ouais.
Et là, c'était l'extrait de Live at Action Park.
Qui est extrait de At Action Park. Voilà, très, très, très bon album. D'ailleurs, j'ai relu un petit peu l'influence qu'a eu cet album. Et voilà, c'est un des albums qui va influencer énormément ce qu'on appelle le math rock. Donc, c'est du rock avec des structures rythmiques un peu plus complexes que le rock à quatre temps habituel. Et voilà, Shellac fait partie des nombreuses inspirations de ses premiers groupes.
On va enchaîner sur une de ses productions. Alors, on a écouté beaucoup jusque-là de noise rock, mais il a fait des choses quand même un peu plus variées en tant que producteur. Et notamment, dans les années 90, il a produit le troisième album de The Otters, ce groupe anglais qui avait été classé à ses débuts un peu à tort dans la Britpop. Ce qui avait un peu énervé d'ailleurs Luke Hens, le chanteur. Peut-être aussi pour ça qu'il a fait appel à Steve Albini, parce qu'il faut quand même dire que les gens, pas les groupes, parfois faisaient aussi appel à Steve Albini, parce que c'était un peu la caution indé. La caution indé, une petite street credibility comme ça, ce qu'avait fait totalement Nirvana hein, en l'embauchant pour In Utero. Donc il produit ce troisième album de The Otters. Murder Park, j'ai plus le titre exact en tête.
Je ne connais pas bien ce groupe. je dois te conseiller ça. Alors.
Et on va entendre l'extrait Child Brides de cet album de The Otters, le groupe anglais.
Thank you. listen. Long dark blues. Listen.
On vient d'écouter Songs Ohio avec le morceau Farewell Transmission, extrait de l'album Electric Magnolia, Magnolia Electric Co. Company, qui a été produit par Steve Almidi. Donc ça, c'est vraiment un excellent album. Enfin, vraiment, ce groupe-là, voilà, c'est vraiment un excellent groupe de la fin des années 90 et du début des années 2000 avec Jason Molina au chant. Et j'ai su en fait largement après que voilà, c'était Steve Albini qui avait produit l'album, mais ça m'est arrivé très souvent ça, de me dire ah, cet album là il est génial, et quand je vais un petit peu fouiller qui a fait l'album, tout ça, je tombe sur Steve Albini. Ça m'est aussi arrivé avec le groupe de noise rock Oxbow. Voilà, Steve Albini a produit deux albums d'Oxbow que j'adore, et j'ai su largement après quoi. Tellement il a produit d'albums comme ça. Et c'était pareil, il a produit Low, donc le groupe de slowcore, à la discographie parfaite. Donc il a produit aussi des albums de Low. Voilà.
On va enchaîner avec un groupe français. C'est ce qu'on disait en début d'émission, il a enregistré plusieurs groupes français, hein, les plus connus, les Tugs, Sleuil, Dionysos, mais il y a d'autres groupes un peu moins connus comme Chevreuil, et le groupe lyonnais Décibel, qu'il a connu quand il tournait avec Shellac, Décibel étant faisant la première partie. Et ils ont bien sympathisé, et Décibel est allé enregistrer dans son studio à Chicago l'album Rock français en 2019. Et on va entendre l'extrait « Manger son ex ».
Je sais pas pourquoi.
Et on vient d'écouter un extrait de l'album In Utero de Nirvana qui s'appelle Radio Friendly Unishifter. Et donc voilà, j'ai passé ce morceau-là parce que voilà, quand Nirvana sort In Utero en 1993, tout le monde s'attend à Nevermind Bis, sauf que le groupe fait appel donc à Steve Albini parce que le groupe voilà veut casser son un petit peu son image et reconquérir sa crédibilité punk. Et donc voilà, c'est Steve Albini qui est derrière la table de mixage. D'ailleurs, il mixe, tu m'as dit, l'album en 5 jours, c'est ça ? Bon, ça fait un petit peu... Enfin, apparemment, le son est vraiment très, très brut. Et Geffen, avec l'accord du groupe, bon, il retouche un petit peu cet album-là, mais qui reste quand même assez, assez rugueux comparé à Nevermind, avec beaucoup de bruit, beaucoup de noise, finalement. Et voilà, comment dire, ça va quand même être un succès mondial pour Nirvana, pas autant que Nevermind, parce que je crois que Nevermind c'est 30 millions d'albums et puis In Utero c'est une dizaine de millions. Mais voilà, voilà, ça plaît finalement quand même ce son de Steve Albini très très rugueux, très brut. Et voilà, mais finalement, comment dire, Kurt Cobain n'arrivera pas à faire à se dépatouiller finalement de son éthique punk, voilà, qui était en contradiction avec son statut de rockstar, et finira finalement par se suicider puisqu'il voilà, il ne trouvait pas de solution à ce dilemme.
L'émission touchant à sa fin, on va se quitter avec un dernier morceau enregistré par Steve Albini, une de ses productions les plus récentes, 2023. C'est l'album des Écossais de Spersnair, The Brutal, et le morceau Wi-Fi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct le lundi de 21h à 22h. Et vous pouvez réécouter le podcast sur le site internet de la radio www.graphite.net.
Holding on, if you're holding on, are you holding on?